Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et si le financier des attentats du 13 novembre était une mère de famille belge, information France Inter à la une ce matin, elle a envoyé de l'argent à son fils en Syrie. Elle sera peut-être poursuivie pour les attaques parisiennes. Manifestement, le temps ne presse pas à l'Elysée et à Matignon, toujours pas de remaniement. Y a-t-il de la friture entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? On verra ça dans un instant avec le chef du service politique, Yael Gauz. Et on en parlera avec le plus macronien des Républicains à 8h20.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, dans le grand entretien de la matinale, 01 45 24 7000.
À la une également des cadres de FO fichés par leur propre syndicat. Une grave erreur, reconnaît le patron de Force Ouvrière Pascal Pavageau. Un plan anti-beuverie pendant les week-ends d'intégration des étudiants. Les diesels bannis des grands axes berlinois. Dernier épisode de la chute de l'Empire gasoil. Et le grand Jacques sur grand écran, 40 ans après sa mort, deux concerts de Jacques Brel au cinéma hier soir.
France Inter.
A-t-elle financé, sans le savoir, les attentats du 13 novembre à Paris ? C'est une information que vous révèle France Inter et la RTBF ce matin. La mère d'un djihadiste belge, soupçonné d'avoir contribué aux attaques en envoyant de l'argent à son fils, parti pour la Syrie. L'homme était devenu un des hauts cadres du groupe État islamique, possible recruteur de certains des assaillants du 13 novembre. L'a-t-il fait avec l'argent de sa mère ? C'est toute la question, Charlotte Piret.
Véronique a vu son fils Samy partir en Syrie en 2012. Très vite, il lui réclame de l'argent.
Une fois c'était pour une voiture, une fois c'était parce que la maison avait brûlé. Je lui ai dit, mais on ne peut pas normalement envoyer de l'argent. Mais non maman, c'est pas grave. Et moi naïve, j'écoutais.
Au total, Véronique envoie plus de 65 000 euros.
Moi j'ai envoyé sa part d'héritage, point barre quoi. Je suis qu'une maman. Je n'ai pas de réseau de terrorisme, je ne sais pas ce qu'on me reproche.
Mais pour les juges, il s'agit de financement de terrorisme, et peut-être même plus, car au fil du temps, le fils de Véronique est devenu un haut cadre de l'État islamique, et même, comme l'a récemment raconté un djihadiste revenu en Europe, le recruteur de certains des terroristes du 13 novembre, potentiellement grâce à l'argent envoyé par Véronique, ce qui ferait d'elle l'un des financeurs de ces attentats, maître Alexis de Soif, son avocat.
Ce serait pour moi tout à fait inconcevable de voir cette dame d'un âge respectable se retrouver sur le banc des accusés avec les principaux suspects des attentats de Paris. C'est pas ça qui va faire progresser la justice. Nos pays attendent ces procès des attentats, mais je pense pas que c'est la place des mamans sur le banc des accusés.
Entendue dans le dossier des attentats pendant près de 10 heures, Véronique est finalement rentrée chez elle sans poursuite, mais sans qu'une mise en examen soit cependant à exclure.
Et retrouvez cette histoire en détail sur franceinter.fr.
En attendant l'acte 2 du quinquennat, le temps s'allonge, Florence.
L'entracte, oui, s'éternise depuis la démission de Gérard Collomb il y a 8 jours. Conseil des ministres dans 2 heures à l'Elysée. Pour l'instant, c'est la même équipe qui sera autour de la table. Le chef du service politique est avec nous. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Florence.
Yael, pourquoi est-ce que c'est si long ?
Huit jours, pour solder une péripétie, celle de Gérard Collomb, pour reprendre les mots du président, c'est vrai qu'on a connu réaction plus rapide. Surtout quand la bande-annonce du nouveau souffle, du changement large, est répétée en boucle par les ténors de la majorité depuis ce week-end. Pourquoi ça coince ? Il y a visiblement deux points de crispation. Le premier se situe à l'intérieur, l'équation Beauvau. Si on y met un profil poids lourd politique, on choisit qui ? Un proche de Philippe ou un proche de Macron ? Et si on choisit un expert, lequel ? Et puis deuxième écueil, l'élargissement souhaité se heurte aux limites du vivier disponible. Manuel Valls parti à Barcelone, la chasse à ses anciens amis du PS était ouverte. Échec, le socialiste Mathieu Klein, par exemple, a décliné hier la proposition qui lui était faite. Et puis n'oublions pas que des profils ont été passés au scanner de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Peut-être qu'il y a eu là de la perte en ligne.
Et puis elle, c'est la seule information qu'on a eue hier. Pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe ne donnera pas sa démission et celle de son gouvernement ? C'était ce qui était prévu.
Alors là, c'est comme si l'exécutif voulait faire dégonfler cette bulle spéculative du remaniement. Pas de démission, ça signifie pas de discours de politique générale, pas de vote de confiance, ça veut dire statu quo, on poursuit la même politique et on banalise les changements dans les ministères. Et c'est parfaitement assumé. À l'hystérie médiatique, l'Élysée répond par le silence et par la promenade. On a vu Emmanuel Macron déambuler tranquillement hier soir sur les quais de Seine. Aux impatients, Matignon répond par l'image. Édouard Philippe, Premier ministre et ministre de l'Intérieur avec les policiers de la BAC cette nuit. La vie de l'État continue avec ou sans remaniement. Il y a une équipe aux manettes, on est calme, on est serein, dit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Du mouvement, il y en aura, mais le président consulte encore et avance à son rythme. Problème, plus le temps passe et plus l'impression qui se dégage est celle d'une lenteur non pas voulue mais subie, comme toutes les péripéties accumulées depuis la rentrée.
Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter. Et maintenant, quel est le comble pour un syndicat? C'est de ficher ses salariés comme un DRH d'entreprise peu scrupuleux, franc-maçon complètement dingue, déteste le patron. Chez FO en 2016, les cadres en ont pris pour leur grade, fiché par des proches du patron actuel Pascal Pavageau à l'époque. Victoria Coussa, il était en lice pour prendre la succession de Jean-Claude Mailly.
Ordure, niais, bête et même voleur dans les portefeuilles, sans parler de l'opinion politique et parfois de l'orientation sexuelle qui accompagne les informations traditionnelles, photos et numéros de portable du responsable fiché. Ils sont 126 en tout à en faire les frais. Patron des fédérations professionnelles, métallurgie, bâtiments, cheminots ou ceux des unions départementales. Je tombe de l'armoire, témoigne Jean-Claude Mailly, l'ancien patron de FO. Il a juré par téléphone ne pas avoir eu vent de l'existence de ce fichier sur réaliste, d'après ses mots, avant ces révélations. De son côté, Pascal Pavageau, l'actuel secrétaire général, reconnaît au Canard Enchaîné une belle connerie. Ce sont ses proches qui ont constitué ce fichier il y a 2 ans. C'était un mémo de l'ordre de la prise de notes truffé d'âneries et de raccourcis. Un document de travail qui, dit-il, ne devait évidemment pas circuler.
Et les représentants défaut conviés pour parler retraite aujourd'hui, sera-t-il regardé de travers par ses camarades des autres syndicats? Ils ont tous rendez-vous avec le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Claude Lelevoix. Début des concertations pour aboutir à un projet voté dans l'année qui vient. La fin des 42 régimes de retraite et l'unification du système. Prochain gros dossier social du gouvernement. Il est question d'un âge pivot au-dessous duquel le salarié pourrait partir, mais sans toucher une retraite pleine, alors que l'emploi des seniors augmente chaque année. 8 points de plus en 10 ans, les entreprises sont enfin en train de s'adapter pour garder les plus vieux, Hélène Philly.
Du temps partiel, de la mobilité interne, des entretiens annuels. Ces dernières années, de nombreux accords ont été signés pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors. Visiblement chez AXA, cela fonctionne. Diane de Perrois est la DRH France de l'assureur.
L'âge moyen de départ est maintenant de 62,9. Et il y a encore, on va dire, une année, on était plutôt à 62 ans et 2 mois. Encore un peu avant, on était à 61 et 9 mois. Donc oui, l'âge moyen de départ à la retraite, il va glisser.
Évidemment, les réformes des retraites ne sont pas étrangères à ce glissement. Les entreprises doivent s'adapter. Chez BNP Paribas, le tutorat se développe, les échanges entre générations. Caroline Courtin travaille aux ressources humaines de la banque.
Les juniors sont intéressés parce que les seniors qui connaissent bien l'entreprise peuvent leur apporter en termes de connexion. Et puis, les plus seniors sont très intéressés par avoir un regard neuf sur leur façon de travailler.
L'entreprise a une responsabilité d'employabilité, confirme Diane de Perrois chez AXA.
Pour garder les savoirs vivants, ça passe par de la formation continue, ça passe par du développement des compétences.
En France, le taux d'emploi des 60-64 ans reste inférieur à 30%. C'est 12 points en dessous de la moyenne européenne.
Et comme on le pressentait vu l'heure qu'il est, le Conseil des ministres de ce mercredi se tiendra avec le gouvernement actuel à 10h à l'Élysée. Communiqué de l'Elysée à l'instant. Ensuite, Emmanuel Macron est censé partir pour le sommet de la francophonie en Arménie. Le remaniement, ça n'est donc pas pour tout de suite. Quand le Sénat se rebiffe contre un des aspects de la réforme de la justice, la suppression de l'audience de conciliation dans les divorces avec contentieux pour raccourcir les procédures, les sénateurs l'ont rejeté hier soir au motif que c'est parfois le seul moment où les couples qui se déchirent peuvent se voir et discuter.
Il est 8h09, trop d'alcool, trop de dérapages, les week-ends intégration dans le viseur du gouvernement.
C'est la saison dans les universités. Pour éviter que ces week-ends tournent mal, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche réunit des présidents d'universités et des associations étudiantes pour leur faire signer une charte anti-beuverie, Jade Péchira.
Le visage de cette campagne, celui de David Marais, 19 ans, retrouvé mort pendant son week-end d'intégration. 3,7 grammes d'alcool par litre de sang. Sébastien Marais, son grand frère.
Au cours de la soirée, il s'est senti mal. Il a été pris en charge par des camarades qui l'ont conduit dans une tente de repos où il a pu s'allonger. Il a été laissé seul sans surveillance et au petit matin, des étudiants qui tournaient dans le camping l'ont trouvé inanimé dans la même tente.
C'était il y a un an dans le Morbihan. Depuis, Sébastien se bat pour que ces événements soient mieux encadrés.
J'ai pas envie que ces week-ends d'intégration soient interdits. En revanche, on peut essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus à l'avenir. C'est que du bon sens, c'est que des pratiques qui devraient devenir des réflexes et qui ne le sont pas forcément.
Des réflexes simples, insiste Françoise Mougin, secrétaire générale du Comité national contre le bizutage.
Il faut limiter la consommation d'alcool. Il faut que le chef d'établissement s'assure de ce qui rentre dans les soutes de l'autocar qui s'en va. Et il faut former aussi les étudiants, leur expliquer ce qu'il faut faire quand on suppose que c'est un coma éthylique. Demander peut-être, je ne sais pas moi, la présence d'un secouriste.
Mais quid si la charte n'est pas respectée, se demande le comité.
Il faut une punition, c'est clair, une sanction. Il faut inciter, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais il faut aller plus loin.
Pousser quelqu'un à consommer de l'alcool de manière excessive est puni par la loi, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Elles aussi peuvent faire des ravages. Fermer les cabines de bronzage, demande on ne peut plus clair de l'Agence de sécurité sanitaire au pouvoir public aujourd'hui. Le risque de cancer de la peau est définitivement avéré quand on s'expose à ces UV artificiels. Ceux qui ont fait au moins une séance de bronzage avant 35 ans voient leur risque augmenter de 60%. Einstein, Churchill, Léonard de Vinci, Disney, Tom Cruise, qu'ont-ils en commun, Nicolas?
Ce sont des hommes.
Ce sont des hommes. Et ils sont dyslexiques, paraît-il. On le dit. Et c'est leur journée, figurez-vous, le 10 octobre, le 10-10, la journée des 10. C'est-à-dire dyslexique, dysorthographique, 10, un tas de choses. En France, c'est 6 à 8% des Français, 1 million d'enfants. Mais leur prise en charge est difficile, si ce n'est dans les écoles sereines créées il y a 10 ans, à 1 000 € par mois. C'est du privé, Hélène Chevalier, mais ça marche.
Grâce au marchand, viens Lala.
À 13 ans, Lala n'a plus du tout peur de prendre la parole dans sa classe.
Moi, je suis dyscalculique, dyslexique, dysorthographique et je suis hyperactif.
Comme la majorité de ses 15 camarades de 5e, Lala a mal vécu ses premières années d'école.
C'était difficile, on se moquait de moi, même la prof était méchante, j'avais tout le temps des 0, des 2.
Diagnostiqué tardivement, mal pris en charge, les enfants arrivent souvent avec un parcours scolaire douloureux. Audrey et leur professeur de français.
Il faut vraiment les valoriser, leur redonner confiance. Il faut juste qu'ils apprennent à faire avec leurs troubles et ils peuvent tout à fait y arriver de la même façon que les autres. L'important, c'est vraiment de ne pas les laisser sur le bord de la route.
Les enfants sont suivis par des orthophonistes, des ergothérapeutes. Ils apprennent à utiliser des outils pour contourner leurs troubles. Le neuropsychologue Hervé Glazel est le fondateur des écoles sereines.
Faire attention à l'orthographe, ça va devenir très compliqué pour un enfant dysgraphique. Donc on va lui proposer éventuellement le clavier de l'ordinateur, qui sera entraîné par un ergothérapeute. Et pour les enfants les plus avancés, la dictée vocale, ce logiciel va transcrire ce que l'enfant va prononcer.
Le but est de rendre les enfants autonomes afin de leur permettre de retourner au bout de 2, 3, voire 4 ans dans le système scolaire classique.
À l'étranger, pourquoi Nikki Haley démissionne-t-elle de son poste d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU? Pourquoi quitte-t-elle le navire Trump à un mois des élections de mi-mandat? Question à la une ce matin dans la presse américaine. Pas d'explication pour l'instant à ce nouveau départ de poids du clan du président. Et puis après la côte des Carolines, la Floride se prépare à un ouragan majeur. Michael est en approche avec des vents attendus autour de 200 km/h. 120 000 personnes ont été appelées à évacuer.
En Allemagne, le diesel a fait la fortune des grandes marques automobiles, mais le rêve tourne au cauchemar.
Après le Dieselgate, l'interdiction à Berlin pour la majorité des diesels sur les grands axes de la capitale, c'est une décision de la justice. Malgré le lobby puissant des constructeurs et les craintes du gouvernement pour l'emploi, 200 000 voitures seraient concernées. Reportage de notre correspondant sur place, Ludovic Piétenu.
Le gouvernement berlinois est bien embêté. Comment s'y prendre pour faire respecter une interdiction valable dans certaines rues? Faut-il une vignette ou une plaque d'une autre couleur? Comme le plaide l'ONG Deutsche Umwelthilfe à l'origine de la procédure, Dorothée Zahr s'occupe au sein de l'organisation de la question des transports et de la qualité de l'air.
C'est un défi pour les automobilistes de savoir quelle rue est interdite et quelle autre ne l'est pas. Nous, on avait demandé pour tout le centre-ville. Avec ces quelques tronçons, on ne pourra voir le résultat que dans quelques années et on est à peu près sûr que ça n'aura que peu d'effet. C'est une perte de temps. On avait là une chance d'avancer, mais vous savez, sur cette question, l'Allemagne est plutôt du genre à faire pencher la balance du mauvais côté.
Au pays de la voiture et du diesel, il n'y a pas que les constructeurs qui font de la résistance, les automobilistes aussi.
Ils nous embêtent avec leur interdiction. Les très vieilles voitures, je veux bien, mais les diesels, pas trop vieux comme le mien, franchement.
Plusieurs cyclistes sont arrêtés là au feu rouge et quand on les interroge, ils sont, comme Enrique, forcément plus catégoriques.
Rien n'est bon pour l'environnement. Les vieux
diesel comme les voitures essence, faudrait toutes les interdire.
Berlin est la quatrième ville allemande où le diesel est banni, bientôt peut-être 30 autres villes où des procédures judiciaires identiques sont en cours. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Ça sentait le roussi à Monaco pour l'entraîneur du club Leonardo Jardim. Son départ a été acté hier, selon le journal L'Équipe. Monaco 18e de la Ligue 1 n'a gagné qu'un seul de ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On parle de Thierry Henry pour le remplacer, comme on en parlait déjà pour Bordeaux. Ça ne s'était pas fait. Enfin, vous l'avez rêvé, habitant son texte, essuyant ses chansons devant vous, mais vous n'avez jamais pu voir Jacques Brel sur scène. Séance de rattrapage hier dans 170 cinémas de France, de Belgique et de Suisse. Le grand Jacques sur grand écran pour deux concerts mythiques, 40 ans après sa mort. Mathieu Culeron y était.
C'est votre jeune frère, mademoiselle Germain.
Faire revivre l'énergie de Jacques Brel sur scène en projetant deux concerts mythiques du chanteur belge, c'était l'objectif de cette soirée intitulée « Brel ne nous quitte pas ». Sont restaurées des images en haute définition. L'immersion opère lorsqu'on regarde Brel chanter Madeleine pour la première fois au concert de Knok le Zoet en 1963.
Ce soir j'attends Madeleine, j'apporte du lilas.
Trois ans plus tard, Jacques Brel fait ses adieux à l'Olympia. Son interprétation est alors au sommet.
Je viens rechercher mes bonbons.
Les fans de Jacques Brel n'auraient manqué cet événement pour rien au monde. C'est le cas de Léo, Édouard et Emmanuel, 23 ans.
À défaut de l'avoir de son vivant, on peut l'avoir dans de bonnes conditions au cinéma. Je dirais que c'était vraiment un artiste total, à la fois par les paroles, par la gestuelle.
Bah, le voir du coup condition concert et pas condition CD, je trouve ça aussi intéressant. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même l'occasion de voir quelque chose qu'on n'a pas pu connaître.
Moi, je suis fan de métal et bon, des artistes qui se donnent sur scène, j'en ai vu. Mais je pense que dans un registre différent, on peut malgré tout penser que c'est un artiste qui se donnait autant. Un moment d'histoire enregistré en vidéo.
Deux concerts légendaires à retrouver également sur disque dans l'intégrale Jacques Brel, sorti pour les 40 ans de sa disparition.
Vieux bon cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant
tellement tout ça.
Et oui, et figurez-vous, Nicolas, qu'il n'y a pas de rue ni de place Jacques Brel à Paris. Ce devrait être chose faite bientôt. La ville en a émis le souhait.
Merci beaucoup, Florence Paracuelos.